De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes reliés à la pandémie. Au-delà de la pandémie elle-même, beaucoup d'effets secondaires, on peut dire ça comme ça. Et un de ces effets-là, c'est la consommation d'opioïdes qui a augmenté, qui fait vraiment des ravages. On va en parler avec la docteure Marie-Ève Morin. Elle est médecin de famille en santé mentale et dépendance à la clinique La Licorne. Docteur Morin, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Alors, comme si c'était pas suffisant d'avoir cette pandémie qui nous empoisonne la vie depuis plus d'un an et demi, ça a des incidences aussi sur la consommation d'opioïdes. Comment on fait un lien entre ces deux éléments-là?
Bien, d'abord, comme vous l'avez mentionné, on parle de la pandémie qui était une crise en soi, mais la pandémie de la COVID a un peu éclipsé ce qu'on appelle la crise des opioïdes, qui n'était vraiment pas résolue hein, au moment où la COVID est arrivée. La crise des opioïdes n'était pas terminée, puis c'est loin de s'être terminée, au contraire. Parce que quand on dit pandémie, on dit confinement. Et qui dit confinement dit évidemment isolement, carence relationnelle. Il y a beaucoup de gens, toxicomanes ou non, qui se sont mis à développer des symptômes d'anxiété, de dépression. Il y a même des gens qui ont développé des symptômes de choc post-traumatique. Avec l'arrivée de la pandémie. Et on sait aussi que au début de la pandémie, en particulier, l'accès aux soins de santé, tel qu'on la connaît habituellement, était un peu paralysé. Hein. Les gens n'osaient pas consulter
en effet.
À l'hôpital. On se faisait dire de ne pas y aller, en plus, parce que tout était priorisé pour la COVID. Alors, il y a beaucoup de gens, comme je vous dis, dépendants ou non, qui se sont mis à s'auto-médicamenter, qui se sont mis à consommer soit davantage qu'ils consommaient à l'habitude, ou des nouveaux consommateurs aussi, pour un peu se calmer, se traiter, se faire du bien, se soulager. Il y a aussi toute la solitude hein, que les gens ont vécue pendant la pandémie. Fait que il y a plusieurs facteurs, mais entre autres, il y a l'isolement, il y a aussi la fermeture des frontières hein, qui fait que la qualité des drogues qui circulent en ce moment, elle est très, en fait, dangereuse. Il y a beaucoup de drogues coupées. Et un dernier facteur que je vous mentionnerais, c'est qu'en consommation, dans la réduction des méfaits, on demande toujours aux gens de ne pas consommer tout seul. Hein, parce que s'il survient une surdose, par
bien
exemple,
sûr, personne n'est là pour les aider.
Intervenir. Exactement. Alors qu'en pandémie, tout le monde était confiné, les gens se sont retrouvés seuls, on ne pouvait pas vraiment sortir. Donc oui, il y a des gens qui sont morts seuls dans leur appartement d'une surdose, simplement parce qu'ils étaient seuls. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que la crise des opioïdes semble être réapparu, ou en tout cas, on la voit encore là, vraiment avec la pandémie. Il y a plus de décès qu'il y en avait par surdose.
Oui. Écoutez, il y a un phénomène aussi. Bon, quand on pense opioïdes, on se dit, bon, des gens qui sont des dépendants, mais ça se développe une dépendance aux opioïdes. Par exemple, quand on est opéré puis qu'on nous donne des petites pilules pour la douleur, ben elles sont le fun, ces petites pilules-là. Fait qu'on en prend une, puis après, on en prend deux, puis trois, puis quatre, puis cinq. Et on développe cette dépendance. Est-ce que ça, ce phénomène-là, a augmenté pendant la pandémie?
Ça, c'est difficile de répondre à cette question-là, mais vous avez tout à fait raison. Quand on parle de la dépendance aux opioïdes, on s'imagine toujours les gens là, qui s'injectent là, dans la rue, là, ceux qu'on voit des fois dans les reportages à la télé. Mm-hmm. Toute la clientèle de douleurs chroniques, tous les gens qui souffrent de douleurs chroniques ou qui ont eu des interventions chirurgicales et oui, se font prescrire des opioïdes, sont tous à risque, oui, de développer une dépendance physique. Et malheureusement, une fois que la dépendance physique est installée, les gens, à un moment donné, n'ont pas toujours accès à la prescription d'opioïdes initiale, mais ont besoin d'en prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent vers la rue parce qu'ils se vendent beaucoup d'opioïdes illicites dans la rue. Et c'est là qu'on voit augmenter les risques de surdose en raison, entre autres, du fameux fentanyl. Mais oui, vous avez raison de le dire, c'est pas tout le monde qui s'injecte des opioïdes qui devient dépendant. Là. C'est pas tous des héroïnomanes. Beaucoup de gens là-dedans, là, comme vous et moi, ou comme des gens qu'on connaît qui ont des douleurs chroniques, qui meurent de surdose d'opioïdes, même s'ils les prennent par la bouche.
Mais je veux juste vous raconter une anecdote personnelle. Bon, ça fait plusieurs fois que j'en parle. J'ai été opérée pour, c'est rien du tout, là, la vésicule biliaire. Ils m'ont enlevé la vésicule biliaire. Quand je suis sortie de l'hôpital, on m'a remis une prescription pour de l'oxycodone. Fait que j'arrive à la pharmacie, on me donne une prescription pour 5 oxycodones. Le premier soir, j'avais vraiment super mal. J'ai pris de l'oxycodone. C'est bon, c'est le fun. J'avais plus mal. Oui. J'étais comme sur un nuage. Je me suis retournée vers mon chum. Puis j'ai dit, demain matin, on retourne à la pharmacie. Je veux retourner mes autres oxycodones. C'est trop tentant.
Et parce c'est très sage de votre part, parce qu'il y a des gens qui n'auront pas eu le... Imaginez, vous, ça allait peut-être pas si mal dans votre vie globalement, tu sais, mais imaginez que vous êtes, je sais pas moi, en instance de séparation, ouais, en instance de faillite. Vous venez d'avoir, vous avez une douleur chronique, puis là, vous tombez sur un comprimé d'oxycontin, puis là, mon Dieu, waouh, il n'y a plus de problème, là, vous êtes gelé physiquement et mentalement, puis vous êtes même un peu euphorique. Bien, c'est sûr que c'est tentant d'en reprendre. Mais ce que je vous félicite de ce que vous avez fait, c'est quand même rare que les gens vont avoir le... Je l'entends des fois aussi pour les gens qui essayent, par exemple, la cocaïne pour la première fois de leur vie. Ils disent, je ne peux jamais en faire, c'est trop bon. Fait que ça, c'est un réflexe très très courageux, mais c'est pas tout le monde qui a malheureusement ce réflexe-là de dire, c'est trop bon, j'en reprendrai plus.
Mais moi, la question que je voulais, mais la question que je voulais vous poser, Dr. Morin, c'est est-ce que on devrait pas en amont, c'est-à-dire que moi, c'était pas, j'avais pas une grosse opération, pourtant on m'a donné une prescription pour 5. Je veux dire, est-ce qu'on devrait pas, est-ce qu'il y a pas une surprescription d'opioïdes, est-ce qu'on devrait pas régler ce problème-là à la base, puis pas donner ça à tout le monde? C'est pas des Tylenol, là.
Non, tout à fait, mais je pense qu'au niveau des prescriptions d'opioïdes, là, depuis le 2016, depuis la crise des opioïdes qui a commencé surtout dans l'Ouest canadien, les médecins sont beaucoup plus sensibilisés qu'auparavant. Puis d'ailleurs, la preuve de ça, c'est si vous avez mis une prescription pour 5 comprimés ou 100 comprimés.
5?
Ben 5, c'est rien. C'est ça, c'est une prescription raisonnable. Mais imaginez-vous qu'il y en a, là, des fois même qui sortent pour, je vais pas pointer les dentistes, là, mais... Il y a des adolescents maintenant qui, vous savez, des ados aiment bien les opioïdes aussi. Ils connaissent ça. Et il y a des ados, maintenant, c'est rendu quasiment un running gag, là, quand il y en a un qui fait enlever les dents de sagesse. Ben, là, il dit à sa gang, ben, je vais ramener les oxycontins.
Hein?
Ils partagent entre eux. Puis oui, il y a des jeunes qui vont consommer. C'est comme le party, là, quand il y en a un qui revient de chez le dentiste. Fait que, oui, ça se consomme pas seulement chez les adultes, mais chez les ados aussi dans certains contextes. Et je vous dirais que le nombre de comprimés peut varier beaucoup d'un intervenant à l'autre, mais moi, j'ai déjà vu des 30, 40, 100 comprimés suite à une cirrhosie remis à un patient en une seule fois. Fait que ça, oui, c'est des choses qui devraient être appelées à changer. Mais oui, c'est des choses qui devraient être appelées à changer. Mais je vous assure, Mme Durocher, que oui, il y en a encore parce que les opioïdes, c'est un médicament essentiel en médecine. On n'aura pas le choix de s'en servir dans certaines douleurs. Mais il y a eu beaucoup de sensibilisation auprès des médecins, je peux vous l'assurer. Puis il n'y a pas un médecin qui n'est pas au courant qu'on est dans une crise des opioïdes. Donc, je pense que oui, il y en a encore de la prescription, mais je pense qu'il y a moins de surprescription qu'avant. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui sont rendus à l'acheter dans la rue. Donc, le marché a changé. Le marché illicite des opioïdes a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur dans les deux dernières années. On est rendu avec des nouveaux super opioïdes qu'on n'avait jamais vus avant.
Il s'appelle
plus
comment?
Fort que le fentanyl.
Il y a
l'isotonitazène. Ça, c'est 5 fois plus fort que le fentanyl.
Aïe!
Il y en a un autre qui s'appelle le carfentanyl, qui est 100 fois plus puissant que le fentanyl. Et ça, on en retrouve dans la rue. Fait que pourquoi vous pensez qu'il y a autant de surdoses? On parle de 15 surdoses mortelles par jour que j'entendais la santé publique hier. Vous savez qu'on a eu un pic de décès, 23 surdoses mortelles en juillet 2020 à Montréal seulement. Alors, c'était du jamais vu. Donc, la crise des opioïdes n'est vraiment pas terminée, au contraire.
Mais
il ne faut pas se décourager. Là. Il y a quand même des pistes de solutions. Il y a l'analyse de substances, il y a les sites d'injection supervisés, il y a l'éducation des médecins et de la population. Il y a des pistes de solutions, mais on n'a pas fini d'en entendre parler, ça c'est sûr.
On a beaucoup de publicité sociétale, le gouvernement qui nous dit ben faites attention à ceci, faites attention à cela. On serait-tu dû pour une publicité sociétale pour attirer l'attention de tout le monde sur le danger et justement sur cette crise des opioïdes?
Ben il y en a eu beaucoup, il y en a encore, il y en a des campagnes, des annonces à la télé qu'on voit parfois.
Ben, je les vois pas passer, Dr. Morin. Je les vois pas passer.
Ça dépend à quel poste vous écoutez, je ne sais pas. Mais il y en a eu quand même des campagnes. Mais c'est très difficile, hein, parce que tout le monde pense que c'est pas dans leur cours, hein, la dépense aux opioïdes. On pense toujours que c'est les gens de la rue, les junkies, les gens qu'on voit à la télé, qui vont aussi d'injections supervisées. Mais ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg de tous les opiomanes qui existent. Si vous avez quelqu'un qui habite, je sais pas moi, Outremont, ou qui a son salon, ou qui a des moyens de... Il n'ira pas dans un site d'injection supervisée. Il va s'injecter chez lui. Mais ces gens-là, on les voit pas. Fait que ça, le visage de la dépendance aux opioïdes, c'est beaucoup plus large qu'on pense.
C'est à fait. C'est en effet assez inquiétant. Ben merci de continuer à tirer la sonnette d'alarme. Puis je veux juste finir en disant quand je m'apprêtais à rentrer dans la salle d'opération, le chirurgien m'a dit, Madame Durocher, quand vous allez sortir, on va vous prescrire des médicaments. Faites attention. Et je le remercie, ce docteur-là. Le docteur Wang, il me l'a dit. Il m'a dit, faites attention, si vous pouvez éviter le plus possible d'en prendre, vous allez mieux vous porter. Ben, je pense que ça prendrait pas mal plus de docteur Wang dans le système, oui, dans le système de santé.
Oui, il faut le dire. Les pharmaciens aussi ont un rôle à jouer là-dedans. Puis quand on a des pilules pour la douleur, il faut faire attention. Même après une chirurgie, il faut attendre de commencer à sentir la douleur avant de prendre un comprimé et non le prendre avant que la douleur apparaisse parce que c'est là qu'on va développer une dépendance.
Très bien dit.
Vraiment essayer d'étirer le plus possible. Et une dernière chose, je vais vous dire.
Oui, allez-y.
N'oubliez pas qu'il existe un antidote pour les surdoses d'opioïdes qui s'appelle la naloxone ou le Narcan. Et ça, c'est quand quelqu'un fait une surdose d'opioïdes, tombe endormi, arrête de respirer, on lui donne une dose ou plusieurs là, de naloxone et ça peut vraiment ramener quelqu'un à la vie. Donc, la naloxone, je pense que tous les consommateurs devraient avoir ça avec eux. Moi, j'en ai une dose dans mon auto, une dose dans mon bureau, une dose dans ma sacoche. J'en traîne partout, puis ça m'a déjà servi.
Pour quelqu'un qui était en train de faire une surdose avec qui vous étiez en contact.
Oui, mais c'était quelqu'un sur la rue, tout simplement, qui
non.
faisait une surdose, puis on est intervenu. Et on a réussi à ramener cette personne-là. Puis les intervenants communautaires font ça à tous les jours, Mme Durocher.
Incroyable.
On donne à tous les jours de la naloxone.
Bon, ben écoutez, je pense qu'on va sortir de cette entrevue collectivement en sachant beaucoup plus puis en étant beaucoup plus alerté à tous ces dangers-là. Fait que, donc, juste un petit rappel, les opioïdes, c'est pas des Smarties puis c'est pas des Tylenol. Non. Fait que, donc, faisons extrêmement attention tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Morin.
Merci, Mme Durocher. Bonne fin de journée.
Marie-Ève Morin, qui est médecin de famille en santé mentale et dépendance à la clinique La Licorne. Bon, les dangers de la chirurgie esthétique, les dangers des opioïdes, les dangers de la rectitude politique, c'est comme ça que se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Dominique Plamondon à la réalisation, la mise en onde. Merci à Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous d'avoir été là, à l'écoute, à Cube. Passez une excellente fin de semaine et puis on se retrouve avec le plus grand plaisir lundi.